Fréville PM. Paranormal.
The flying disc has been found.
El Mítico Chupacabras.
Les enquêtes de Christian Page.
Alors, vous entendez le thème, n'est-ce pas, qui annonce l'arrivée de Christian Page et ses mythes et complots. Bonjour, Christian Page.
Salut, Louis.
Et c'est la dernière chronique de 2018?
Oui.
Alors, on va y aller, quoi, avec une rétrospective des grands événements mystérieux, n'est-ce pas,
oui,
de l'année.
On va essayer de respecter un peu cette tradition. Écoute, j'ai essayé de te choisir 5 des nouvelles les plus marquantes de 2018 qui touchent le domaine du paranormal.
Ouais.
Les 4 premières sont des bonnes nouvelles, des nouvelles intéressantes, et la dernière est une nouvelle un peu loufoque. Et j'avoue que dans les deux cas, ça a été difficile. Trouver des nouvelles intéressantes et sérieuses.
Ben c'est parce que dans ton monde à toi, il y a plein d'affaires loufoques. C'est ça,
ça
l'histoire.
Et c'est exactement sur quoi je voulais t'amener. C'est-à-dire que dans ce domaine-là, c'est difficile de trouver des nouvelles sérieuses.
Oui.
Et donc, il est difficile d'en trouver 4, mais il y en a quand même eu quelques-unes. Et dans le domaine du loufoque, il y en a tellement que ça devient difficile de faire
choisir. Voilà. Mais on va commencer avec la première qui, moi, m'intéresse particulièrement parce que je me suis intéressé à cette histoire-là. Je suis un passionné d'aviation, etc. Et on parle de Amelia Earhart,
voilà,
qui est une aviatrice pionnière, en fait,
voilà,
qui, à un moment donné, disparaît complètement des écrans radars là, en 1940.
Ouais.
Alors, est-ce qu'on l'a retrouvée ou on ne l'a pas retrouvée?
Ben voilà, l'histoire d'Amelia Earhart, tu le mentionnes, c'est l'une des femmes qui s'est imposée. On parle ici de l'époque, l'âge d'or de l'aviation, hein, où tout était permis.
Ouais.
Et on connaît les Lindbergh, Blériot et compagnie. Et dans cette foulée va en fait se distinguer une femme, parce que c'est souvent un univers qui est réservé qu'aux hommes. Et va se distinguer donc cette femme, cette Amelia Earhart, et elle va détenir, on va se retrouver, là, parce que l'événement qui nous intéresse se passe en 1937, mais elle va se distinguer dans les années précédentes par des records de vitesse, des records d'altitude. Elle devient la première femme à traverser l'Atlantique en solitaire, ce qui va lui d'ailleurs lui valoir le surnom de Lady Lindy, en faisant référence à Charles Lindbergh qui avait réussi l'exploit quelques années avant. Donc, on se retrouve en 1937, et là, le grand projet de Amelia Earhart, c'est de pouvoir faire le tour du monde en suivant la ligne de l'équateur à bord d'un avion. Ce qui, évidemment, tout ça nous semble tellement éloigné maintenant de notre réalité d'aujourd'hui. Et pourtant, à l'époque, c'est quelque chose qui ne s'était jamais fait.
Ouais.
Et ici, en passant, tu auras compris que si on fait le tour du monde par l'équateur,
c'est la plus longue distance possible.
La plus longue distance possible. Et ça prouve que la Terre est ronde.
Voilà!
Mais ici, on est dans un autre univers. Donc, voilà.
Parce qu'au chapitre des nouvelles loufoques, on avait un Américain cette année qui a essayé de prouver que la Terre était plate.
Il a monté à bord d'une fusée qui a fait plutôt long feu dans le désert, le désert de Mojave.
Il s'est rendu compte que, en fait, on ne sait pas plus si la Terre est ronde ou plate, mais il sait, par exemple, que la Terre est dure.
Il y a eu quelques petites blessures à son retour.
Oui.
La Terre est peut-être plate, mais dure, ça c'est sûr. Alors, cette histoire d'Amelia Earhart, elle fait une première tentative qui échoue, son avion s'écrase en bout de piste à Hawaï, on la ramène en Californie, et voilà, donc elle fait une première liaison, la Californie en Floride, et le 1er juin 1937, elle décolle, son avion est un Lockheed Electra qui a été spécialement aménagé pour pouvoir contenir beaucoup de carburant, elle a avec elle un copilote, un navigateur, Fred Noonan, et voilà, donc la première partie de l'envolée ou du périple se passe assez bien et on se retrouve le 2 juillet 1937. À ce moment-là, l'avion est posé à La Haye, en Nouvelle-Guinée.
Mm-hmm.
Et l'idée est de rallier, parce que là, on doit se rendre à Hawaï, mais les réserves de carburant sont insuffisantes. On a donc installé sur un petit atoll désert. Il y a des bateaux qui mouillent autour, des bateaux de la US Navy. On a installé là une station de ravitaillement. Amelia Earhart doit s'y poser, ravitailler l'avion et redécoller en direction des îles Hawaï.
Ouais.
Elle n'arrivera jamais à destination. Ce jour-là, quelque chose de mystérieux va se produire alors qu'elle est au-dessus de la mer après un vol d'une dizaine d'heures. Elle informe les bateaux qui mouillent autour de l'île, ce petit atoll, et elle dit « Je ne vous vois pas, je n'arrive pas à apercevoir les lignes de l'île Hollande. » Et pourtant, dans l'île Hollande, on a quand même fait un feu dont le panache de fumée doit se voir à des dizaines de kilomètres à la ronde. Elle se plaint d'une météo qui est plutôt mauvaise et on ne retrouvera jamais l'avion. Jamais. Alors là, toutes sortes d'hypothèses vont commencer à circuler. Certains diront elle a été capturée par les Japonais. On était avant la période de la guerre. Et on sait que certaines îles du Pacifique étaient occupées par les troupes nippones. On s'est dit peut-être qu'elle a été capturée par les Japonais, exécutée. Il y a toutes sortes de légendes qui vont courir. L'une d'entre elles, qui est beaucoup plus qu'une légende, c'était une hypothèse, c'est qu'Amelia Earhart aurait tenté de se poser sur l'une des nombreuses îles qui sont en Polynésie, et un atoll en particulier, l'île de Nikumaroro.
Ouais.
Mais on n'avait aucune preuve de ça. C'est vrai que cette île est déserte. En 1940, et c'est là qu'on plonge vraiment dans l'histoire, en 1940, l'île à ce moment-là était sous l'administration britannique. En 1940, les Britanniques ont tenté de faire une opération d'occupation de l'île en emportant des gens, des Polynésiens. On a essayé de coloniser l'île. On n'y est pas parvenu parce qu'il n'y avait pas d'eau potable. Ça posait un sérieux problème. Mais au moment où on va défricher un peu la forêt, curieusement, on va découvrir près d'un arbre des restes humains. En fait, la moitié d'un squelette, un crâne, mâchoire, fémur, humérus, donc des ossements. On va trouver également une boîte qui apparemment aurait contenu un sextant, une chaussure de femme. Alors tout ça est mis dans une boîte et on envoie ça aux îles Fidji où là, un médecin, le docteur Oudless, va s'occuper des restes humains et il va déterminer que selon lui, il doit s'agir d'un homme probablement d'origine européenne ou peut-être polynésienne ou un mélange entre les deux, un homme petit, trapu. Et voilà, merci, bonsoir, l'affaire s'arrête là. Les os ont été perdus depuis. Mais on a encore les mesures parce que le docteur Oudless avait fait un détail très précis des restes humains qui avaient été découverts, la longueur des os, la structure des os. Bon, et en reprenant ces travaux-là, un nouveau chercheur, Richard Johns, qui travaille à l'Université du Tennessee, a repris cette histoire-là, a utilisé des logiciels parce qu'il faut savoir que la médecine médico-légale de 1940 n'est pas la médecine médico-légale d'aujourd'hui. Et en reprenant les détails de l'autopsie, entre guillemets, réalisée par le docteur Oudless en 1940, il arrive à une toute autre conclusion. Les ossements, selon lui, étaient définitivement ceux d'une femme âgée aux alentours de 40 ans. Amelia Earhart avait 39 ans. Et les dimensions des os correspondent exactement au gabarit d'Amelia Earhart. Alors ici, cette nouvelle étude menée par ce docteur, Richard Johns, vient confirmer ou à tout le moins mettre de l'eau au moulin fortement à ceux qui ont toujours maintenu qu'Amelia Earhart avait trouvé la mort parce que son avion s'était écrasé près de l'île Nikumaroro. On ne sait pas ce qui était devenu à son navigateur Fred Noonan. Peut-être est-il mort au moment où l'avion s'est crashé. Mais visiblement, Amelia Earhart aurait survécu, aurait réussi à regagner la mer.
Mais les restes de l'avion, eux, n'ont pas été retrouvés sur l'île?
On n'a aucune trace
de l'avion.
Non, pour l'instant, l'hypothèse soutenue, c'est que l'avion se serait écrasé dans la mer. Faut dire que l'avion n'était pas... Et comme il n'y avait pas de piste d'atterrissage sur l'atoll, tu comprendras que la meilleure solution était de tenter un amerrissage sur le ventre.
Ouais.
Donc, l'appareil probablement aurait tenté de se poser à 1 kilomètre ou 500 mètres peut-être de la côte. Et là, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que Fred Noonan est mort dans la tentative? Peu importe, Amelia Earhart aurait survécu, aurait réussi à rejoindre la berge et aurait attendu, probablement très blessée par l'événement, et elle aurait attendu des secours qui, malheureusement, ne sont jamais arrivés.
Bon, alors, est-ce que, par exemple, on aurait pu faire ou on va faire des espèces de recherches autour? Parce que si, effectivement, l'avion s'est posé sur l'eau, ben, il doit rester une carcasse d'avion dans l'eau quelque part autour de l'île.
Il faut quand même que je te dise, Louis, que depuis quelques années, il y a un groupe qui fait de la recherche sur des avions historiques perdus.
Ouais.
Ce groupe-là s'appelle Tiger. C'est un groupe de la région de Washington, aux États-Unis. Et ce groupe a favorisé depuis des années cette hypothèse que l'appareil, l'Electra d'Amelia Earhart, se serait crashé près de l'île de Nikumaroro. Et ils ont mené plusieurs recherches au cours des 10-15 dernières années. Ils ont exploré la baie, la mer autour. Ils ont utilisé des magnétomètres à pénétration, des magnétomètres spécialisés pour détecter des objets métalliques. Mm-hmm. Il faut quand même savoir que l'avion était surtout composé d'aluminium, donc il ne faut pas s'attendre à retrouver beaucoup de parties de la carlingue de l'avion. Mais les pièces les plus lourdes, on parle ici du train d'atterrissage et les moteurs, ils sont probablement quelque part encore autour de l'île de Nikumaroro.
Ils n'auraient juste pas été retrouvés.
N'auraient pas été retrouvés jusqu'à jusqu'à maintenant.
Bon, alors, c'est passionnant cette histoire-là, puis il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, il y a des documentaires qui ont été faits. C'est vraiment une histoire tout à fait passionnante.
Absolument.
Alors, on va s'arrêter un tout petit moment, Christian, puis après, ben, on va revenir avec d'autres histoires mystérieuses qui ont marqué 2018. On s'arrête un moment.
Drainville PM. Paranormal.
The flying disc has been found.
El Mítico Chupacabras.
Les enquêtes de Christian Page.
Alors, nous sommes toujours en compagnie de Christian Page et ses mythes et complots. Christian en a parlé, bien sûr, cette année, de cette fameuse momie, l'espèce de petite momie que l'on croit être une momie extraterrestre. Est-ce que c'est le cas?
Ben, c'est vrai que c'est une momie qui a été présentée à la presse comme étant peut-être une momie d'extraterrestre. Alors, on refait un peu l'histoire ici. Cette momie, on lui a donné le surnom de Atta parce qu'elle était retrouvée dans le désert d'Atacama qui se trouve au Chili. Bon, l'histoire de sa découverte est un peu nébuleuse. En 2003, il faut savoir que dans la région d'Atacama, il y a eu de nombreuses mines qui ont été exploitées dans les années 50-60 et maintenant, elles sont abandonnées. Et c'est un aventurier qui se trouvait dans le secteur, on est en 2003, qui va trouver dans un des bâtiments abandonnés, une espèce de sacoche en cuir et à l'intérieur, les restes visiblement séchés, momifiés de cette petite momie. Mais quand on parle de petite momie, vraiment, elle a tous les aspects d'un extraterrestre sur l'aspect esthétique. Hein? Mm-hmm. Elle a une tête déformée, des orbites oculaires énormes. Elle n'a que 10 paires de côtes, contrairement aux humains qui en ont 12. Les membres semblent avoir été articulés, donc c'est une momie de type humanoïde qui présente des caractéristiques comme on les imagine aux extraterrestres.
Mais tout petite, là. C'est quoi? C'est quelques dizaines de centimètres?
Voilà, c'est 15 centimètres. Alors évidemment, c'est tout petit, cette histoire de momie. Elle va se retrouver, comme c'est malheureusement souvent le cas dans les pays où il y a beaucoup d'intérêts archéologiques, en Amérique centrale ou encore en Amérique du Sud, elle va se retrouver entre les mains d'un collectionneur de curiosités et elle est toujours un peu elle est toujours la propriété d'un parti privé. Et voilà qu'il y a quelques années, on parle aux alentours de 2013-2014, un amateur d'OVNI, le docteur Stephen Greer. C'est quand même un personnage un peu fumeux. Hein? C'est un ancien urgentologue qui est devenu ufologue, qui organise aujourd'hui des séminaires. On va dans le désert, on fait des haoum en espérant contacter les extraterrestres. Il fait un documentaire qui s'appelle Sirius. Et dans ce documentaire, il présente cette petite momie Atta comme étant la preuve qu'il s'agit d'une momie extraterrestre. Alors évidemment, les amateurs d'OVNI vont vite capitaliser sur cette histoire et elle devient un peu un objet phare qui prouve l'existence ou la présence des extraterrestres. Pouette, pouette, pouette.
C'est pas ça.
Donc, la momie s'est retrouvée entre les mains de spécialistes, de véritables spécialistes. Et ils ont publié cette année, en début d'année, ils ont publié dans la revue du Genome Research. Ouais. Ils ont publié les résultats de leurs recherches. Et la momie Atta n'a rien d'extraterrestre. C'est une momie 100% humaine. On estime qu'il s'agit probablement d'un enfant mort-né qui souffrait de déformations comme on n'en a jamais vu quand même. Les scientifiques reconnaissent qu'il y a des anomalies dans l'ADN qui démontre des malformations congénitales tout à fait incroyables. Et on croit que l'enfant est mort-né ou n'a vécu que quelques semaines, sinon quelques mois. Il était minuscule, hein, 15 centimètres.
En fait, la momie aurait quel âge?
Une quarantaine d'années seulement.
Ce
n'est pas une momie qui remonte à l'époque des anciens Incas ou l'ancienne Mésoamérique. Non, c'est une momie qui a à peu près 40 ans et elle a desséché comme ça. Ses parents, visiblement, lui ont donné comme cercueil cette petite poche de cuir qui éventuellement a été retrouvée en 2003.
Alors, c'est bien décevant. On aurait aimé ça que ce soit un extraterrestre.
Je sais, j'étais du même avis.
Bon, parle-moi de cette pièce de monnaie qui a été retrouvée, qui est digne de X-Files.
Oui, on y va rapidement. Écoute, on est en avril et ce n'est pas un poisson d'avril.
Ouais.
La monnaie royale canadienne met en vente une pièce de 20 $. Une pièce de 20 $ qu'elle vend à peu près 129 $. Et cette pièce...
Ça, c'est une pièce en métal.
C'est une pièce de monnaie, là, en argent, tout. Elle est frappée à l'image d'une histoire d'OVNI, en fait, la plus célèbre célèbre histoire d'OVNI qui s'est produite au Canada. On est en mai 1967. Il s'agit d'un prospecteur du Manitoba, un type qui s'appelle Stéphane Michalak. Il se retrouve près de Falcon Lake, qui est à la frontière de l'Ontario et de l'Alberta, pour faire de la prospection minière. Et en milieu de journée, alors qu'il est à l'ombre d'un rocher, il est en train de se restaurer, il dit voir deux objets arriver, deux objets qui ressemblent à des bols renversés, à typiquement soucoupes volantes. L'un de ces objets va se poser près de lui, l'autre va s'éloigner dans le ciel et disparaître. Alors l'objet va rester une vingtaine de minutes au sol, Michalak a le temps de bien l'observer. À un moment donné, une porte qui ressemble à un iris d'une caméra va s'ouvrir. Michalak va s'approcher, se rentrer la tête dans l'ouverture. Il croit que c'est des Américains, alors il dit « Hey, Yankee boy, est-ce que vous avez besoin d'aide? » Parce qu'on est un peu avant le débarquement de l'homme sur la Lune. Il a vu des dessins dans la
presse.
Et
on sait que les Américains se déplacent toujours en soucoupe volante,
bien sûr. Et d'où la cinquième force spatiale de Donald Trump. Mais alors, et au moment où il vient pour toucher l'objet, la porte se referme, l'objet pivote sur lui-même, laisse échapper des gaz, en fait un souffle chaud d'air qui met le feu aux vêtements de Michalak, qui se roule dans l'herbe pour éteindre le feu. L'objet décolle et s'éloigne. Il y aura enquête sur cet incident. On ne trouvera jamais d'explication et ça demeure aujourd'hui l'histoire d'OVNI la plus célèbre du Canada.
Alors, et la monnaie canadienne a dit ça, c'est suffisamment sérieux pour qu'on fasse une pièce de monnaie frappée de...
Voilà. Donc, c'est une pièce de monnaie, une pièce qui a une forme un peu comme un œuf, une pièce ovoïde. Ouais. Elle est frappée, donc elle montre Michalak étendu dans l'herbe et la soucoupe qui décolle. Et lorsqu'on achetait la pièce, elle venait avec une petite lampe de poche, une lampe de lumière noire, une black light. Et quand on éclaire la pièce, on voit l'objet s'illuminer d'une lueur violacée et un jet de lumière qui se dirige vers Stéphane Michalak. Là, je sais, Louis, tu trippings sur ton fauteuil en te disant « Puis-je en avoir une? »
Oui.
Non, elles ont été frappées à 4000 exemplaires.
Et mais ça toi, t'en as une.
Bien sûr.
Ben, évidemment.
Et ça s'est vendu comme des petits pains chauds. Alors, c'était notre nouvelle de la monnaie canadienne royale. Oui.
Écoute, que, bon. Qui donne de la crédibilité quand même à une histoire invraisemblable. OK. Bon, OK, là on va se donner un peu de temps pour parler dans la chronique Only in Canada, n'est-ce pas?
Oui.
Il y a un homme en Colombie-Britannique qui a poursuivi le gouvernement.
Oui.
Parce que le gouvernement refuse de reconnaître l'existence du Sasquatch.
Quel beau pays.
Only in Canada.
Only in Canada. En fait, l'histoire est arrivée. L'affaire a débuté en début d'année. Le type est un individu qui s'appelle Todd Standing. C'est un résident de la Colombie-Britannique. Il est connu pour son intérêt pour le Bigfoot Sasquatch. Il a mis, bon, le Bigfoot, pour les gens qui nous écoutent, si on ne sait pas de quoi on parle, créature mi-homme, mi-humaine, couverte de poils. Le petit cousin, en fait, du fameux Yeti.
Exact.
Et qui vivrait principalement dans les forêts de la côte ouest nord-américaine, du nord de la Californie à l'Alaska. Donc, notre Todd Standing est un passionné de ces histoires de Bigfoot. Il a mis en ligne sur YouTube plusieurs vidéos, dit-il, où il a filmé le Sasquatch, mais c'est tout à fait risible. L'une d'entre elles, par exemple, ne montre qu'un buste statique du dit Sasquatch, sur lequel il a superposé sa propre bouche et ses yeux, un peu à l'image des têtes à claques qu'on connaît bien ici au Québec. Et là, il dit, voilà, c'est une vidéo où j'ai filmé une prise de vue rapprochée du Bigfoot. Quoi qu'il en soit, en début d'année, début 2018, Todd Standing poursuit le gouvernement de la Colombie-Britannique parce qu'il refuse de reconnaître, il les accuse en fait de négligence, parce qu'il refuse de reconnaître l'existence de la créature au nombre des animaux occupant la faune de la Colombie-Britannique. Alors il dit, quand je vais en forêt, moi, je mets ma vie en péril parce que le gouvernement refuse de reconnaître l'existence de la créature. Et il demande au gouvernement de lui prêter, entre guillemets, un biologiste qu'il pourrait amener dans la forêt pour lui prouver l'existence de la créature. Évidemment, je le sais, tu te dis, mais s'il avait des évidences, pourquoi ne les a-t-il pas amenés avec lui?
Voilà!
C'est la grande question. Quoi qu'il en soit, only in Canada, notre bonne... Bon, au début, le gouvernement de l'environnement en Colombie-Britannique prend l'histoire un peu en riant, on fait des haussements d'épaules, mais Todd Standing n'entend pas en rester là. Il va poursuivre le gouvernement et tout ça va remonter jusqu'à la Cour suprême de la Colombie. Britannique, la Cour supérieure de la Colombie-Britannique. Et notre bonhomme, donc il y a les auditions qui ont lieu en août. Le juge va se retirer pendant 3 semaines, fin août.
Il a quand même passé pendant 3 semaines,
Il a passé quand même pendant 3 semaines. Et
Écoute, moi, ça aurait été pas mal plus vite.
Peut-être était-il occupé à autre chose quand même, le juge. Mais bon, après 3 semaines d'attente, le juge rend son verdict et tu ne seras pas... Ben, tu vas être peut-être surpris d'apprendre que le juge a dit qu'il ne... En fait, Todd Stanley a été débouté et le juge a été... pas convaincu des arguments de Todd Stanley. Il a dit que son dossier était plutôt faible, que les évidences étaient un peu loufoques, hein, c'est le terme qu'il a utilisé. Il a même ajouté que ce n'était pas un tribunal de trancher si oui ou non le gouvernement de la Colombie-Britannique, le département des forêts ou encore l'environnement avait à statuer sur l'existence ou non d'une créature. C'était en fait les spécialistes, les biologistes du gouvernement qui devait s'occuper de cette histoire-là et de déterminer si les preuves sont là ou pas là pour accréditer la thèse de l'existence d'un hominidé inconnu. Et visiblement, dans le cas de Todd Standing, les évidences n'étaient pas là.
Et le problème, c'est qu'on ne sait pas plus si Bigfoot ou Sasquatch, ou appelez-le comme vous voulez, existe. C'est ça le problème.
Écoute, moi, quand Louis, quand j'ai lu cette nouvelle-là, je me suis dit, écoute, c'est-il pas ça un beau exemple de démocratie? Ou bien il y a des gens qui réussissent à exploiter le système pour se faire de la publicité, ou encore c'est l'un des plus merveilleux exemples de la belle démocratie canadienne.
Voilà. Christian Page, c'était la dernière chronique de 2018.
Ça me fait plaisir.
Mais on se retrouve l'an prochain.
Ouais, oui.
Ben, c'est-à-dire la semaine prochaine. Là,
exact.
Avec la première chronique de 2019. Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Au revoir. Et quant à nous, ben, on se reparle lundi prochain, le 31, pour la dernière émission de l'année. Merci à toute l'équipe. Au revoir et à la semaine prochaine.